Donc, bienvenue à tous à la soirée publique des journées d'études de la chaire Jean Rodin. Je m'appelle Laure Blanchon, je suis une sœur ursuline, enseignante au Centre Sèvres. Je suis titulaire de la chaire Jean Rodin et coordinatrice du département de recherche en théologie pratique du Centre Sèvres. Cette soirée s'intitule « La ténèbre n'est pas ténèbre, parler à partir de ce qui nous échappe ». La soirée s'inscrit au cœur de deux jours d'études et de rencontres sur le thème « Au creux du malheur, la lumière ». Peut-on affirmer que le malheur est un lieu de salut? Un bon nombre d'entre vous ont commencé dès 14h30 aujourd'hui et poursuivront le parcours jusqu'à demain soir. Et puis, une cinquantaine de personnes à peu près nous ont rejointes entre ceux qui sont dans la salle et ceux qui sont dans le Zoom. Je sais qu'il y a l'un ou l'autre groupe du réseau Saint-Laurent qui sont regroupés. Il y a un lien Zoom pour tout un groupe du réseau Saint-Laurent à plusieurs endroits en France, voilà, sur le Zoom. Donc, bienvenue à vous tous. Ces deux journées sont le fruit d'un séminaire de recherche organisé de septembre 2018 à septembre 2022 par le département de recherche en théologie pratique du Centre Sèvres, dans le cadre de la chaire Jean Rodin. Au long de cette soirée publique, nous vous proposons d'entrer dans la question par une porte artistique, contemplative, poétique, dans cette question de la lumière au creux du malheur. Je laisse maintenant la place à la poésie avec un texte écrit par Nathalie.
Nathalie, 4 janvier 2017. Mon Seigneur, Maître de toutes choses, j'ai soif de ta justice divine. On dit trop de mal de moi. On me harcèle. On me traite de voleuse et de mauvaise femme. On me met sur le dos ce qui n'est pas recommandé. Mais Seigneur, toi, tu le sais, je suis propre de l'intérieur. J'ai tout mis entre tes mains, Seigneur, mon Sauveur. Prier, c'est un devoir. Seigneur Père éternel, manifeste-toi. Pourquoi toutes ces accusations? Pourquoi est-ce qu'on s'acharne à me faire du mal? Mes os sont en feu. Ils m'ont enlevé ma force. Je ne trouve plus le sommeil la nuit. Fais un signe en ma faveur. C'est à toi de juger mon cœur. Mais personne ne pourra me casser, car tu es derrière moi. Je suis tout entière, je me suis mise tout entière entre tes mains. Dans mon cœur, je t'appelle, je te prie et je t'espère.
Maintenant, nous allons entendre une intervention de la part de Jean-Claude Caillot. Jean-Claude est membre et fondateur avec Marie-Vonne de la Pierre d'Angle, Fraternité Carmonde.
Au creux du malheur, point d'interrogation. Se peut-il qu'au creux du malheur s'engendre la présence déjà de la clarté? Se peut-il encore que la souffrance, l'effroi, l'errance et le tourment, la violence deviennent le lieu et foyer et soit comme le déjà-là du point du jour conduisant à l'aurore. si par hypothèse, on donne raison à Simone Veil lorsqu'elle affirme, je cite, que le malheur est un déracinement de la vie, est-il raisonnable de penser qu'au sein de la souffrance et de la douleur conjuguée, forme d'indéfini, puisse être enfanté quelque chose comme de la joie, de la paix, de la beauté? Dit autrement, les noces de l'amour et de la douleur sont-elles possibles chez ceux qui ont la vision du fond inhumain de l'humain? Écoutons Nathalie, cette femme dont on vous parlera davantage tout à l'heure et dont vous avez déjà entendu l'un des textes il y a un instant. Elle semble donner raison à Simone Veil, qui affirme que le malheur, je cite, « le malheur est un des trous par où peuvent pénétrer le souffle et la lumière de Dieu ». Laissez-la parler avec ces mots. Je suis une âme affligée. Je suis comme une martyre. On me rejette, c'est l'enfer. Mais je sais, Dieu m'entendra. J'ai la certitude que je ne suis pas seul. Le Seigneur est avec moi. Je sens son parfum et sa lumière vient sur moi. Vous avez entendu, c'est l'enfer et la lumière de Dieu vient sur moi. Les deux versants au présent. Des siècles auparavant, 25 ou davantage, le psalmiste décrit le chemin tortueux de tout vivant. Et il rejoint jusqu'au fond, comme par anticipation, le tourment, le martyre et l'enfer enduré par Nathalie. Là aussi, laissons parler le psalmiste au verset 11 du psaume 139. J'avais dit, les ténèbres m'écrase. Je ne connais pas le prénom de l'écrivain biblique, mais ce pourrait être André ou Jean, Anne, Bertrand, Eliane, ou bien sûr Nathalie. Ce pourrait être tant d'autres. Ceux-là qui disent, sans faux semblant et dans une confiance éperdue, ce qu'il en est de leur vie. Espoir, remords et déceptions, amours et trahisons, violence partout, sur le corps et l'esprit, jusqu'au fond de l'âme, si le mot dit quelque chose. Jusqu'au fond, oui, car les ténèbres écrasent. Mais d'où viennent, soudain, les mots du second stick du verset? Quel ange à présent prend la parole pour affirmer l'improbable et l'inespéré? Mais autour de moi, la nuit devient lumière. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais autour de moi, la nuit devient lumière. La nuit qui devient. Quel est ce devenir? Et d'où vient-il? Ne sont-ce que des mots, des oripeaux royaux pour vêtir le malheureux? Eh bien, ces mots viennent du psalmiste. Malheureux homme ou femme délaissée, hurlant l'obscur, mais percevant jusqu'en la chair que l'orageux fracas accouche de la vie, qu'il appelle, convoque, et envoie. Car il est clair, le psalmiste. Les ténèbres m'écrasent, mais autour de moi, la nuit devient lumière. La nuit donne place à la lumière, comme la douleur travaille la naissance. Ce psalmiste, ne serait-ce pas cette femme, Nathalie, elle qui affirme haut et fort, sachant ce qu'elle dit ou ne le sachant pas, c'est l'enfer, mais la lumière de Dieu vient sur moi. À entendre cette femme, n'importe qui peut croire que tout dans sa vie est transformé et que la géhenne est devenue jardin. Mais non, pas du tout. Non seulement rien n'a changé, mais de jour en jour, tout est pire. Chaos, bruit, fureur, larmes et misères, manque de tout. C'est une femme horrifiée par l'effrayant qui tonitrue autour d'elle, flagellée par la vie. Et pourtant, elle n'en peut plus, mais parfois son sang renaît. Une clarté la traverse. Ces mots sont répétés, non pas comme une forme de mantra pour juguler le mauvais sort, mais comme une vérité. Elle consent, dans le chaos même, à ce qui a illuminé sa nuit et ainsi fait entendre un au-delà de la plainte. Il convient alors de donner hospitalité à ce cri et d'entendre que quand cette femme prononce ces mots, elle reconnaît qu'elle a vécu une forme de révélation. Une épiphanie continue d'habiter sa mémoire, même si sa vie se détériore. Car elle parle, cette femme, en puisant dans sa mémoire. Mais se rappelant quoi, au juste ? Je l'ignore. Mais en se souvenant, elle rend public ce qu'elle a ressenti. Son affirmation est non seulement un faire-mémoire pour elle, mais un témoigner. L'observateur extérieur, le passant, ne voit que le chaos. Mais elle voit en puisant dans sa mémoire ce qui demeure vivant. J'ai la certitude que je ne suis pas seul. Et cette affirmation est un témoignage qu'avec Dieu, il n'y a pas d'acception de personne et que son action, l'action de Dieu, n'est pas tributaire des normes établies par les instruits pour les sages. Elle affirme et témoigne. Elle témoigne parce qu'elle a perçu, peut-être compris, qu'en sa propre chair, un éclat de lumière a quand même tout transformé. Et pourtant, pour le passant, tout n'est qu'épave, immondice et déchets. Rien ne tient, tout est perdu, seulement de la survie. Tout est pareil à hier, indéfiniment pareil. Et pourtant, ces mots témoignent de ce qu'elle pressent, la paix qui mêle le déjà-là de la béatitude au pas encore de la promesse. Mais le passant, toujours lui, n'a de cesse de questionner, voire même de suspecter cette expérience lumineuse, ou du moins de chercher à l'expliquer, à la circonscrire, à lui donner place et concept, y compris celui de salut, sur la carte géographique qu'il a lui-même dessinée. Car, s'enquiert-il, le passant, d'où vient que le parfum et la lumière ressentie par Nathalie en ce lieu où le Christ lui donne son esprit, d'où vient que cette présence n'ait pas transformé le quotidien de sa vie? Pourquoi n'y a-t-il pas eu guérison, même des apparences, ce qui serait pour nous vérification de ce qui s'est vraiment vécu? Oui, pourquoi? Comment comprendre? Que comprendre? Mais surtout, dites-moi, faut-il comprendre? Car qui parmi nous a compris en deçà ou au-delà du concept la lueur du matin blanc et la pierre roulée, et ce passage soudain de la pierre rejetée à la pierre d'angle? Savez-vous par qui? Vous y croyez, mais ne savez pas l'expliquer, car il ne convient pas de défier le mystère. Alors, pourquoi dénier à cette femme les phrases audacieuses de la clarté jaillissant dans sa vie de misère? Il me semble que sa parole suffit. Elle affirme sa vie et donne à entendre le bruit mat des deux piécettes dans le tronc du trésor qui font dire à Jésus, selon la lettre des évangiles, qu'elle a donné là toute sa vie. Ils n'y peuvent rien, les pauvres, si Dieu vient les visiter. C'est que, depuis la maison de l'esclavage en Égypte, telle qu'interprétée dans le livre de l'Exode, leur clameur ne cesse de s'élever. Et qui donc, en dehors de Dieu, pourrait entendre la plainte de ceux que personne n'écoute? J'ai vu, je vous ai visité. Les très pauvres sont la trace et les témoins, irrécusables témoins, que l'espérance qui gît en chacun de nous n'est pas vaine. Dieu se donne en présence, lumière et parfum, comme le souligne si fortement Nathalie. Et par ces visitations, ne nous donnerait-il pas de deviner qu'ils sont les gardiens du secret de ce que Dieu garde secret, à savoir ce qu'il en est vraiment du salut? Ou bien, encore plus simplement, par ces visitations, Dieu ne nous demanderait-il pas de comprendre qu'en ces vies-là, il se sent bien, parce qu'il y retrouve le Fils évidé de lui-même? Pour conclure, qu'il me suffise de dire que notre séminaire fut une ruche de questions, et que, comme Moïse, nous étions devant un brasier d'énigmes. Il fallut nous laisser habiter, c'est-à-dire quitter toute protection, marcher sans bagage, puis nous laisser dérouter, déloger et profondément animer par cette voix d'humanité, abandonnée dans le dédale indéfini du malheur qu'aucun solfège n'ordonne. Affronter cette voix, c'est-à-dire à la fois parcourir un chemin et s'exercer à entendre, affronter cette voie est une épreuve, car chacun de nous toujours a nécessité de comprendre, surtout lorsqu'il s'agit du lien qui unit le feu avec la nuit. C'est dire donc que le point d'interrogation demeure. Et dire aussi, pour paraphraser le philosophe de Königsberg, que ce séminaire est une amorce, prolégomène à toute théologie future. Merci.
Nous écoutons de nouveau un texte de Nathalie.
Ma fille dit, quand on était petit, elle nous a placés. C'est vrai, je n'ai pas pu lui apprendre les règles de la vie. Elle n'en fait qu'à sa tête. Je lui dis, ce que tu as subi, tu ne dois pas le faire subir aux autres. Je suis dans une impasse. Mon cœur est enflé de douleur. Je n'en peux plus. La douleur ne me lâche pas. J'ai un poids sur le cœur. Tout ce qui vient du Seigneur, je l'accepte. Mais ce qui vient de l'homme cruel, non, je ne peux pas. Il faut que la vérité sorte. Je suis obligée de m'accrocher. J'oublie ma souffrance en faisant le bien. Le ciel et la terre sont remplis de la gloire de Dieu. Il ne faut pas les salir. Septembre 2018.
Je donne maintenant la parole à François Audinet. François est enseignant ici au Centre Sèvres en théologie pratique.
Merci beaucoup. Y a-t-il une lumière dans le malheur ? Y a-t-il une lumière dans le malheur ? La question qui nous a guidés pendant plusieurs années de travail avait quelque chose d'étonnant. S'il y a de la lumière dans le malheur, pour qui est cette lumière ? Est-ce qu'il y a de la lumière pour les plus pauvres ? Est-ce qu'il y a de la lumière pour les théologiens ? Est-ce qu'il y a de la lumière pour toute l'humanité ? Dans tous les cas, nous sommes devant un grand paradoxe. Mais notre travail en séminaire m'a fait faire un déplacement et m'invite aujourd'hui à poser ainsi la question : dans le malheur, y a-t-il une lumière pour Dieu ? Dans le malheur, y a-t-il une lumière pour Dieu ? Dans ce cas, faudrait-il comprendre que Dieu apprend des pauvres, que Dieu lui-même apprend des pauvres. On le verra, mais je le dis tout de suite, je crois qu'il est possible de poser la question sans impliquer que la pauvreté aurait quelque chose de bon, que la pauvreté aurait du bon à nos yeux ou que la pauvreté aurait du bon aux yeux de Dieu. Je crois qu'on n'a pas besoin d'impliquer ça pour demander, mais quand il y a vraiment le malheur, est-ce que Dieu apprend ? Y a-t-il une lumière pour Dieu ? Je commence par l'incarnation. Cette idée d'un apprentissage pour Dieu est venue pour moi de la Fraternité Saint-Martin, un groupe diocésain qui rassemble des personnes en précarité à Tours, dont les membres ont réfléchi sur l'incarnation à Noël 2018. Je m'appuierai sur deux phrases de Colette, une des personnes de la Fraternité Saint-Martin. Voici la première. Colette explique ainsi le motif de l'incarnation. Il, c'est Dieu, il voulait être faible pour qu'il aille plus facilement vers moi et que moi, j'aille plus facilement vers lui. Donc pour Colette, l'incarnation correspond à un double choix de la part de Dieu. D'abord un choix de faiblesse, de pauvreté, et ensuite un choix de rencontre. Et c'est le choix de rencontre qui explique que Dieu puisse choisir la pauvreté. C'est parce que l'incarnation est un choix de rencontre pour Dieu qu'elle comporte le choix de la pauvreté, puisque le but de l'incarnation est exprimé ainsi par Colette, le but de l'incarnation, qu'une personne ayant l'expérience de la pauvreté puisse aller vers Dieu comme Dieu vient vers elle. Autrement dit, dans l'incarnation, si Dieu choisit la pauvreté, c'est afin de rendre possible la rencontre avec les pauvres. Cette intuition de Colette s'appuie sur les conditions de la naissance de Jésus, telles que l'évangile de Luc les présente. Il était médité à ce moment-là par la fraternité Saint-Martin. Ceux qui se sentent au plus bas se découvrent de plein pied avec un Dieu qui s'approche par un tel chemin. L'incarnation, c'est donc une entrée en relation avec l'humanité et même une entrée en relation réciproque avec l'humanité. Cette entrée en relation de Dieu avec l'humanité, dans l'incarnation, elle passe par les plus pauvres. Dieu vient apprendre la vie des pauvres. Dieu entre dans leur manière d'être au monde et d'habiter l'existence humaine pour tisser une alliance avec eux et permettre la réciprocité dans la relation. Alors bien sûr, on pourrait d'abord estimer que Jésus lui-même a appris à connaître la vie des pauvres sur le plan humain. Il a appris des choses, Jésus, évidemment, comme tout être humain. Il l'a sans doute aussi appris de Marie, sa mère, qui se présente comme humble et pauvre dans le Magnificat. Mais Colette, elle, évoque clairement un apprentissage pour Dieu, pas seulement quelque chose qui relèverait de la progression humaine de Jésus, un apprentissage pour Dieu. Alors pour mieux entendre cette conviction, je pense qu'il faut méditer la deuxième phrase prononcée par Colette. Dieu a compris que la vraie vie était vécue dans le bas. Donc, que s'il voulait vivre comme nous, il fallait qu'il ait l'expérience de vivre pauvre parmi les pauvres. Parce qu'il y a peut-être que là qu'il comprendrait que c'est vivant. Colette utilise deux fois le verbe « comprendre ». Et c'est là que moi je vois une clé de compréhension. Colette articule quelque chose que Dieu a compris avant l'incarnation, et comme Dieu l'a compris, ça motive son choix de l'incarnation parmi les pauvres, et quelque chose que Dieu a le désir de comprendre, et dont Dieu ne sait qu'il ne pourra le comprendre que parmi les pauvres. Donc il y a quelque chose que Dieu a compris, et ça fait qu'il veut s'incarner parmi les pauvres, et quelque chose que Dieu veut comprendre, et qu'il ne comprendra que parmi les pauvres. Dieu a compris qu'il comprendrait à l'école des plus pauvres, et qu'il comprendrait quoi ? Ce que c'est que d'être humain. C'est là seulement, parmi les plus pauvres, que la vérité de la vie humaine pourra lui apparaître. Et pour ça, il fallait qu'il ait l'expérience de vivre pauvre parmi les pauvres, précise Colette. Dieu comprend qu'il doit faire l'expérience de cette vraie vie qui est vécue dans le bas. Nous savons bien que cette expérience n'est pas une simple visite ponctuelle, une sorte de safari divin parmi les plus pauvres. C'est tout le contraire. Dans le Christ, Dieu partage la forme de vie des plus pauvres. C'est donc vraiment le paradigme relationnel qui justifie de part en part cette conception de l'incarnation. En vivant pauvre parmi les pauvres, à l'école des plus pauvres, Dieu apprend la vraie vie et comprend ce qui est vivant, comprend ce qui en nous est vivant. Autrement dit, en se mettant à l'école des plus pauvres, Dieu apprend ce qui est au cœur de l'humanité tout entière, ce qui la rend vivante. C'est à l'école des plus pauvres que Dieu apprend quelque chose qui concerne l'humanité tout entière, ce qui la rend vivante. C'est en passant par les plus pauvres que Dieu trouve le chemin qui rejoint l'humanité dans son intégralité. Je conclus sur l'incarnation. Si c'est vrai que l'incarnation apporte une lumière à toute l'humanité, eh bien c'est pas une lumière qui descend simplement du ciel. Elle apparaît, cette lumière de l'incarnation, dans la rencontre de Dieu avec les plus pauvres. C'est donc parmi les pauvres que Dieu va chercher cette lumière qui resplendit sur le visage du Christ et qui brille pour toute l'humanité. Parce que cette lumière qui se trouve parmi les pauvres ne leur est pas réservée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. J'en viens au mystère pascal. Et je propose de repartir d'un autre partage biblique, celui de la fraternité de la Pierre d'Angle à Paris, peu avant Pâques, en 2019. Les personnes du groupe méditent la passion du Christ telle qu'elle est racontée dans l'évangile de Marc. Et Josette explique ceci. Jésus s'est mis dans notre condition, même sur la croix. Il s'est mis à notre portée. Il nous a même pris en charge à ce moment-là. Moi aussi, je le dis. Il s'est mis à une condition humaine, comme nous, comme tout un chacun. Lui aussi, à cette souffrance qu'il a connue sur la croix, c'était pour la partager avec nous. Fin de citation. La phrase de Josette suppose que la croix renvoie à une souffrance qui préexiste à Jésus, puisque sur la croix, il s'est mis dans notre condition, il nous a même pris en charge, etc. La croix renvoie à une souffrance qui existait avant même que Jésus soit sur la croix. Ici, nous retrouvons le motif relationnel de l'incarnation. Ce motif de la relation apparaît comme ce qui motive le Christ pour accepter la croix. Par la croix, Jésus partage la souffrance qui affecte la condition humaine et, ce faisant, en partageant cette souffrance, il prend en charge l'humanité. Pour Josette, la croix est identifiée comme le moment où ce partage-là est poussé jusqu'au bout, même sur la croix, dit-elle. Je voudrais noter l'intérêt sotériologique, en théologie du salut, de cette réflexion. Quand on essaie d'expliquer comment Dieu nous sauve, c'est le genre de choses qu'on fait dans une faculté de théologie, essayer d'expliquer comment Dieu nous sauve, on sort les rames, on met généralement l'accent soit sur l'incarnation, soit sur le mystère pascal. En général, on passe plutôt par une des deux portes. Ici, dans ce que dit Josette, la dimension relationnelle que on a identifié dans les paroles de Colette, comme ici dans les paroles de Josette, identifié cette dimension relationnelle dans l'incarnation et à la croix, ça permet d'unifier les deux pôles dans une même dynamique. Dans cette dynamique relationnelle, on observe une correspondance entre l'expérience que Jésus fait du bas ou de la souffrance et la conviction que c'est de cette manière-là qu'il rejoint toute l'humanité. En passant par le bas ou par la souffrance, c'est de cette manière-là qu'il rejoint toute l'humanité. Cette conception de la souffrance impose d'interpréter le cri de Jésus sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans la même conversation de la fraternité de la Pierre d'Angle, Chantal commente ce cri et elle le fait de manière paradoxale. C'est un petit peu plus long. Jésus a tellement souffert. J'ai l'impression, en fait, je critique pas Dieu, mais Dieu l'a abandonné pour souffrir de cette manière. Dieu est tout puissant. Normalement, il peut faire des efforts pour qu'il souffre pas trop. Cela me fait vraiment mal, la façon qu'on a traité Jésus. Jésus, il a trop souffert parce qu'il a pris sa propre humanité. Dieu ne l'a pas abandonné. Il lui a donné la force de porter sa croix jusqu'en haut. S'il l'avait abandonné, il ne voulait pas qu'il ressuscite. D'abord, on est frappé par la compassion de Chantal. Elle fait écho à l'excès de la souffrance du Christ, qui va avec l'authenticité de sa propre humanité, comme elle dit. Chantal exprime un étonnant paradoxe. D'un côté, Dieu a abandonné Jésus, d'un autre côté, Dieu n'a pas abandonné son Fils. D'un côté, Dieu a abandonné Jésus parce que lui qui est tout puissant n'est pas intervenu. il a laissé son fils en proie à la souffrance. Mais d'un autre côté, Dieu n'a pas abandonné son fils parce que, comme le dit Chantal, il lui a donné la force de porter sa croix jusqu'en haut. Cette phrase peut se référer au courage de Jésus, qui va jusqu'au Golgotha en portant sa croix, ou alors elle peut renvoyer à la résurrection. D'ailleurs, elle en parle. Quoi qu'il en soit, la force que Dieu donne à son fils s'avère plus puissante que l'anéantissement par la souffrance. Que Jésus ait pu porter sa croix jusqu'en haut alors qu'il a tellement souffert, cela montre qu'il a ouvert un passage pour la vie à travers l'abîme de la souffrance. Si c'est vraiment vivant tout en bas, comme le disait Colette, c'est peut-être parce que les plus pauvres sont vivants en tant qu'ils cherchent en permanence un passage pour la vie, à travers la mort qui les entoure. Je fais l'hypothèse qu'il y a là une véritable forme de vie spécifique aux plus pauvres. Être vivant, c'est faire sans cesse reculer la mort. Qu'ils soient victimes de guerre, confrontés à l'exclusion ou plongés dans la misère, les plus pauvres ne sont vivants que parce qu'ils parviennent à ouvrir un passage pour la vie, tout en faisant l'expérience permanente d'être abandonné et de crier sans recevoir de réponse. Eh bien, en s'incarnant, Jésus est entré dans cette manière de vivre. Cela apparaît dans les rencontres que l'Évangile raconte entre Jésus et bien des personnes très pauvres qui crient vers lui. Alors que tout est bloqué pour ces personnes, Jésus ouvre devant elles un passage tout en leur signalant que c'est leur propre foi qui a ouvert un tel chemin. C'est l'expérience paradigmatique de Bartimée qui passe de l'immobilité au mouvement, qui passe du bord de la route au groupe des disciples, tout en s'entendant assurer par Jésus « C'est ta foi qui t'a sauvé ». Ce que Jésus apprend de la vie en bas, là où c'est vraiment vivant, ce qu'il apprend en se mettant ainsi de plein pied avec les plus pauvres, eh bien c'est peut-être à ouvrir avec eux un passage pour la vie. C'est peut-être ça que Jésus apprend des plus pauvres. Et c'est ça, je crois, qu'il mènera à son accomplissement dans sa Pâque. C'est peut-être ça le nom du salut chrétien. Ouvrir un passage pour la vie, faire que la mort ne gagne pas. Cette dimension du salut accomplit l'œuvre créatrice de Dieu lui-même. Il est approprié de dire que Dieu apprend à réaliser son œuvre aux côtés des plus pauvres. Parce que Jésus dit à Bartimée, c'est ta foi qui t'a sauvé. Donc, dans cette œuvre de salut, les plus pauvres sont des partenaires privilégiés de Dieu, de ce que Dieu fait. Cet engagement dans le salut, qui est assez spécifique aux plus pauvres, il dessine aussi, quand même, la place que peut tenir tout être humain au-delà du monde des pauvres. Parce que toute personne se trouve appelée à entrer dans ce combat pour ouvrir un passage à travers la mort, aux côtés de celles et ceux qui, depuis toujours et pour toujours, s'applique à lutter chaque jour. Il y a là une place pour chacun, avec eux. Il semble donc que Dieu ait appris des plus pauvres comment sauver l'humanité. Jésus a appris des pauvres à chercher la vie. Il a appris des pauvres à tout risquer pour ce passage, sans en abandonner l'espérance au moment même où tout semblait perdu. Il a tout risqué pour ça. Le Fils de Dieu a appris quelle confiance les pauvres mettent en Dieu, et à l'heure de la croix, il s'est accordé à cette confiance. C'est bien beau, enfin en tout cas moi je trouve ça bien beau, mais cette proclamation de salut ne peut pas suffire parce que les plus pauvres continuent à être broyés. Malgré leur résistance, malgré leur combat, la mort gagne quand même souvent. L'oubli les engloutit, l'injustice fait son travail et elle gagne la partie. Alors comment comprendre ce partenariat salvifique entre Dieu et les plus pauvres? Pas seulement à la lumière de ce qu'a réussi dans l'incarnation, pas seulement à la lumière de ce qu'a réussi dans l'itinéraire de Jésus, dans sa Pâque, mais encore à la lumière de tant d'existences abîmées et anéanties. c'est la question centrale de ce qu'on appelle la théodicée. Une théodicée qui s'avère, du coup, entièrement christologique, liée à l'itinéraire du Christ. Je reviens donc à ma dernière partie, pour faire un petit tour dans la théodicée. Cette question du salut, elle est posée dans l'interview de Charlotte par Jean-Marie Martin pour l'émission Parole de vie, qui a été diffusée sur RCF Méditerranée en novembre 2001. Nous l'avons analysée au cours de notre séminaire. Charlotte affirme qu'elle a été sauvée. Elle le dit. Et sauvée quand même. Elle dit qu'elle a été sauvée quand même. Ça fait entendre la rudesse de l'épreuve. Être sauvée pour elle, c'est avoir été maintenue en vie en faisant reculer la mort. Je cite Charlotte. J'aurais pu très bien plus être là, parce qu'il m'a quand même sauvé. Il m'a sauvé dans des clashs, par exemple. J'aurais pu déjà ne pas être là. Jean-Marie l'interroge alors, comment ça se passe être sauvé? La réponse de Charlotte commence ainsi. Quand on prie, on l'appelle, et il y a eu un arrêt, quoi. J'arrive pas à expliquer. Être sauvé, c'est constater que s'est ouvert un passage pour la vie à travers la mort, de sorte que Charlotte, elle est là, comme elle dit, elle est là, alors que tout concourait à ce que sa vie s'efface de ce monde. Mais dans la pensée de Charlotte, ça suppose une première étape. Être sauvé, c'est découvrir un passage pour sa voie. Voilà qui enrichit notre compréhension du salut. Avant même l'ouverture d'un passage pour la vie, il y a l'ouverture d'un passage pour la voie. Charlotte a pu prier, appeler. L'arrêt dont elle parle advient comme une réponse à ses appels. Il correspond à un arrêt de la violence, c'est-à-dire au fait que la violence n'a pas eu raison de son existence. Dans cette conception du salut, on peut mieux comprendre la place des psaumes dans le corpus biblique, je crois. Nous en avons médité plusieurs au cours du séminaire. Contrairement à beaucoup de littérature antique, comme beaucoup de littérature spirituelle, les psaumes ne dissimulent pas les souffrances des pauvres. Ces prières bibliques n'étouffent pas les cris des pauvres. Au contraire, elles les font résonner. De tels cris montent jusqu'à Dieu. Les pauvres ont le droit d'appeler Dieu, de lui faire des reproches. Ils ont même le droit de dire à Dieu ce qu'ils devraient faire. Peut-être qu'en fait, les psaumes existent pour ça. Donner aux pauvres des mots et une voix pour crier. Ne pas les laisser dans l'abîme qui interdit toute parole et toute prière. Fut-elle une prière lancinante, l'expression d'une désolation sans appel, comme dans le psaume 87. Mais au moins, il y a une voix. Dans cette perspective, le salut apparaît bien sûr comme un don de Dieu, bien sûr, mais ce don trouve sa place dans le dialogue entre Dieu et ceux qui sont les plus éprouvés. Ce dialogue du salut entre Dieu et l'humanité n'est pas une conversation de salon. C'est une addition de cris et de supplications, une question de vie ou de mort. Les pauvres sont ainsi comme les veilleurs dont parle le prophète Isaïe. Ils sont placés sur les remparts de Jérusalem, c'est-à-dire qu'ils se trouvent au lieu de la plus violente confrontation, à l'endroit où la ville, qui est lieu de vie et de prière, peut être l'objet d'une invasion par le danger ou la mort. C'est là, à cet endroit-là, que les veilleurs doivent appeler Dieu sans cesse, sans lui laisser de répit, dit le texte. Ils rappellent à Dieu sa promesse, ils invitent Dieu à mettre en acte sa fidélité. Charlotte, quand elle raconte sa prière au cœur de la menace, à un autre endroit, dit d'ailleurs, elle dit ces mots, « Seigneur Jésus, viens, tu as dit qu'on pouvait t'appeler. » De fait, la Bible offre aux plus pauvres des chemins pour que leur voix parvienne jusqu'à Dieu. Pouvoir élever une telle prière, faire entendre un pareil cri, c'est déjà de l'ordre du salut. Parce que ça consiste à demeurer en relation avec la bonté créatrice de Dieu, celle qui donne la vie. Il me semble qu'on peut ainsi interpréter la parole de Jésus en croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?
Oui, tu m'as laissé un message là, oui.
Cette parole est issue d'un psaume et elle résonne comme un aveu d'angoisse et d'isolement terrible. Et pourtant, c'est un appel, une manière de demeurer en relation avec Dieu, même dans le moment où cette relation est frappée d'incertitude. La confiance qu'exprime Charlotte dans cette interview est une confiance en la providence. Ce genre de propos interdit de barrer le thème de la providence de la pensée chrétienne, comme l'ont fait nombre de théologiens qui ont voulu combattre une conception infantilisante, celle d'un Dieu tout-puissant capable de résoudre les problèmes de l'humanité sur simple demande. Mais la conception de la providence ici présente n'a rien de ridicule, elle n'a rien d'infantile, parce qu'elle s'accorde à la conception du salut, une conception dialogale, une conception dialogale de l'action divine. D'ailleurs, cette conception de la providence n'a rien de mythologique. Les personnes en précarité que je côtoie, quand elles parlent de la réponse de Dieu à leurs appels, soit elles désignent la force et la confiance qui leur sont données, soit elles pensent à d'autres personnes que Dieu a mis sur leur route au bon moment. C'est pas un mythe bizarre. L'appel que les plus pauvres adressent à Dieu s'appuie sur une radicale confiance en sa bonté, mais aussi sur la conscience que c'est une urgence absolue d'en appeler à Dieu contre la mort. Dans ce paradigme relationnel, il est impensable que Dieu demeure insensible à la souffrance de l'humanité. Impensable. Alors le Dieu qu'on appelle, c'est le Dieu de l'Alliance, celui qui parle, ce Dieu qui invite, qui n'invite pas seulement à écouter, mais qui invite aussi à parler, qui invite aussi à appeler. Ce Dieu-là, c'est le Dieu de l'incarnation, celui qui s'est mis à l'école des plus pauvres. Il se trouve que tout dialogue authentique suppose un apprentissage pour les partenaires. Quand on dialogue vraiment, on apprend. Alors si Dieu dialogue avec les pauvres, comment pourrait-il ne rien apprendre ? Autrement dit, comme dans l'incarnation, comme dans le mystère pascal, Dieu a appris des pauvres comment sauver l'humanité. Et bien de même, en tout temps de l'histoire, pas seulement dans l'incarnation ou dans le mystère pascal, en tout temps de l'histoire, Dieu entend des pauvres l'appel à agir et à se rendre présent dans une telle épreuve. Dans ce dialogue, je dirais que les plus pauvres sont pour Dieu des partenaires à la fois exigeants et compatissants. Ils sont exigeants parce que les plus pauvres ne cessent d'appeler tant que leur vie est menacée. Ou s'ils cessent, c'est justement que la mort est en train de triompher. Ils sont exigeants parce qu'ils ont le droit de montrer à Dieu ce qu'il en est de sa création. Ils ont le droit d'attendre l'appui de Dieu, la force qui vient de Dieu, de lui montrer ce qui se passe, où en est sa création. Mais je dirais que les plus pauvres sont aussi des partenaires compatissants pour Dieu. Ils expriment souvent leur compréhension à l'égard d'un Dieu qui peine à répondre parce qu'il est trop sollicité, ou parce que, comme le disait récemment Josiane, en fait, il y a trop de misère. Au fond, les plus pauvres veillent sur un Dieu qui est lui-même confronté à l'abîme de la misère. Il veille sur lui. Ce double aspect du dialogue entre Dieu et les plus pauvres me semble éclairer une parole qu'ajoute Charlotte dans l'interview. Je peux dire que moi, j'ai eu la chance, le cadeau d'être sauvé. Parce que dans toutes les camarades que j'ai eues auparavant, il y en a qui sont plus là, quoi. Elles sont plus là. Elles n'ont pas été sauvées. Elles n'ont pas été épargnées, quoi, par ces blessures. Le salut est un cadeau, dit Charlotte. Mais tout de même, le salut apparaît comme un cadeau en regard de tant de vies anéanties, de vies qui n'ont pas été sauvées, au sens où elles n'ont pas été épargnées. Voilà qui éclaire l'idée du salut comme une victoire de la vie sur la mort. Il ne s'agit pas de rêver que Dieu nous rendra immortels, au sens où nous ne passerions pas par la mort. Il s'agit de croire que Dieu empêchera nos vies d'être broyé, d'être écrasé. Il ne s'agit pas d'échapper au vieillissement, il s'agit d'échapper à l'anéantissement. Et ce n'est pas tout à fait la même espérance. Charlotte hésite pour formuler sa phrase, mais elle ose énoncer une vérité qu'elle ne peut pas taire. Certaines de ses compagnes n'ont pas été sauvées. De qui est-ce la faute? Il se trouve que Charlotte ne pose pas la question. Ici apparaît, me semble-t-il, cette combinaison de l'exigence à l'égard de Dieu, parce que la vie dépend de sa réponse aux appels, et de la compassion à son égard. Comment peut-il faire face à tant de misère? La victoire de la mort et de la violence demeure ici, mais comme une énigme. Dieu se serait-il désintéressé de toutes ces vies non sauvées? Je ne peux pas l'imaginer, et sans doute vous non plus. Alors il est permis de penser que l'apprentissage de Dieu se poursuit. Aussi longtemps que durera son dialogue avec les pauvres et avec ceux qui sont écrasés, le temps de l'histoire demeure pour Dieu le temps de l'apprentissage. Nous attendons le jour où toute justice apparaîtra, comme dit l'Écriture. Ce jour-là, qu'en sera-t-il de toutes ces vies qui n'ont pas été sauvées? Ici encore, avec une telle question, il n'y a pas d'autre voie que le dialogue avec Dieu. Nous appelons la venue de ce jour, et dans cet appel, nous n'oublions pas les vies qui n'ont pas été épargnées. Et nous espérons que Dieu continue à apprendre. Je termine cette conception d'un apprentissage pour Dieu. Il me semble qu'elle s'ouvre à une théologie de l'Église. Le Concile Vatican II dit de l'Église qu'elle est le sacrement universel du salut. Les paroles des personnes du Quart-Monde que j'ai citées m'ont aidé à mieux comprendre cette affirmation conciliaire. L'Église est sacrement du salut, comment? Eh bien, peut-être dans la mesure où elle se met au service de l'ouverture de passage pour la vie des plus pauvres, mais aussi de l'ouverture de passage pour leur voie. Elle est sacrement du salut, au sens où, comme Charlotte, elle rend grâce pour la vie donnée, échappée à la mort. Mais l'Église entre aussi dans le grand dialogue du salut. L'Église se situe comme partenaire de l'apprentissage divin à chaque fois que, dans sa liturgie, elle laisse résonner les psaumes d'Israël et le cri du Messie. Mon Dieu, pourquoi et jusqu'à quand? Merci beaucoup.
Donc nous écoutons de nouveau un poème, une prière, un psaume écrit par Nathalie.
Clic. 25 octobre 2019. J'en souffre. Viens voir ma souffrance, je ne suis pas rebelle. Je souffre et je fais souffrir mon cœur. J'ai écrit la lettre à ma façon. Il n'y a pas pire que moi. Ma fille me dit « Tu es humiliée, maman ». Je n'ai rien gagné dans la vie. Mes enfants placés, ils ont séparé la fratrie. Ils voient que c'est la foi qui me fait résister. Elle est où ma vie? Ils m'ont enlevé ma force de travail. Ils m'ont enlevé ma force de santé. Je ne suis rien qu'une petite poussière. Je vais leur faire porter le chapeau à ceux qui m'ont fait du mal. Qu'ils crèvent, ceux qui me veulent du mal. Je vais prier à ma façon. Je vais agir. Et il me répondra. Que le bon Dieu m'entende. J'en souffre. Ces mots sont un cadeau pour moi. Je ne peux plus me considérer. Je ne suis plus rien.
Je donne maintenant la parole à Marie-Yvonne Caillot. Marie-Yvonne est l'épouse de Jean-Claude, que nous avons entendu il y a quelques minutes. Et Marie-Yvonne est responsable du groupe de La Pierre d'Angle Paris.
Alors, je vais vous dire quelques mots sur la manière dont ont été rédigés les textes que vous entendez et sur lesquels Dominique et Paul vont vous parler ensuite. Nathalie et moi, nous nous sommes rencontrés il y a presque 20 ans maintenant. Par bribes, au fil des jours et des années, elle m'a invitée à entrer dans sa vie. Une vie tout entière tissée de malheurs et de souffrances, mais aussi de révolte et de résistance. Orpheline de mère, encore toute jeune enfant, puis de père, elle a grandi dans un orphelinat. Et c'est auprès des religieuses, de sœur Geneviève en particulier, que s'est éveillée sa foi en Dieu, en Jésus, et sa confiance en Marie, la mère des anges, comme elle dit. À 18 ans, elle se marie. 3 enfants vont naître. Mais la vie est difficile. Le couple se sépare. Et très vite, c'est un autre déchirement, profond, brutal, qui la laisse inconsolable. Jugée incapable de les élever, ses 3 enfants lui sont arrachés. La brigade des mineurs vient les chercher à la sortie de l'école. Ils sont placés alors que la plus jeune n'a que 3 ans, souffrance inguérissable, une plaie toujours béante. Ils sont placés loin de Paris, d'abord en institution, puis dans 3 familles différentes. Jusqu'à leur majorité, elle aura espéré leur retour. Mais logée dans une toute petite pièce, sombre, humide et insalubre, cela n'aura jamais été possible. Une vie déchirée par le malheur et l'injustice. Injustice du placement de ses enfants. Injustice d'avoir été mal soignée d'une hépatite contractée lors d'un de ses accouchements. Injustice que sa demande de logement n'ait jamais été honorée depuis plus de 25 ans. Et maintenant, injustice de sentir son corps qui se déforme et de devoir marcher avec un déambulateur alors qu'elle n'a pas 60 ans. Au fil de mes visites, je l'ai entendu crier sa révolte, sa supplication. Dieu de justice et de bonté, viens à mon secours. Nathalie a longtemps participé aux rencontres de la Pierre d'Angle, des réunions qui rassemblent des personnes en grande précarité pour lire et comprendre l'Évangile. Ces rencontres, nous les préparions ensemble. Elle parlait et je notais. Et j'ai continué au fil de nos rencontres et de nos échanges téléphoniques, de plus en plus fréquents, surtout depuis la crise du Covid. J'ai continué à griffonner à la volée des bribes de phrases, des mots. La souffrance est tellement grande qu'elle déborde, désordonnée. C'est souvent comme un torrent furieux qui emporte tout sur son passage et ne laisse derrière lui qu'un paysage désolé. Elle parle, elle se révolte, j'écoute. Mais que faire? Qui être? Que dire? Ces questions m'obsèdent. Certains jours, je me laisse submerger. Je n'en peux plus d'entendre tant de souffrance et de désordre. Agressée à l'intérieur de moi-même, n'ayant que mon silence et ma présence à offrir. Qui être? Que dire? Alors je note. J'écris à la volée, le plus exactement possible, les mots, les phrases, pour ne pas tomber dans le jugement ou le rejet. Je note. Que faire? Que dire? Qui être devant un tel flot de mots, de paroles, de souffrances, d'injustices? Comment accueillir? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je voudrais fuir, ne plus entendre. Alors je note. Après coup, en relisant ces mots griffonnés à la va-vite sur le papier pour les taper sur l'ordinateur, combien de fois n'ai-je pas été stupéfaite par la puissance et la beauté de ces textes. Trésor improbable, trésor ignoré. Je les reçois avec la force des psaumes, des cris jetés vers Dieu. Beauté perdue, recueillie au vol, au hasard. Pourquoi ce moment? Pourquoi cette phrase plutôt qu'une autre? Un jour, j'ai rassemblé tous ces textes et je les ai redonnés à Nathalie. Étonnée, elle m'a demandé d'en faire une copie pour ses enfants. Alors, je les ai mis en forme dans un petit livret que je lui ai remis. Et je lui ai demandé, est-ce que je pourrais les faire lire à des amis au séminaire de théologie? Elle m'a répondu, tu crois? Mais oui, d'accord. Ainsi, j'ai pu parler de ces textes lors de notre travail du séminaire. Alors, au creux du malheur, la lumière, point d'interrogation. En définitive, je pourrais dire que la lumière, elle est surtout pour moi, pour la transformation de mon propre regard, de mon écoute, de ma foi en Dieu. Il y a quelques mois, nous étions assis sur un banc à l'ombre d'un arbre dans le parc des Buttes-Chaumont. Nathalie, comme de nombreuses fois, me parle, me raconte ses malheurs sans fin, l'injustice, la révolte. J'en peux plus d'écouter ce flot de souffrance ininterrompue, que même la naissance de sa petite fille qu'elle m'annonce à ce moment-là ne vient éclairer. Je suis épuisée, blessée par tant de paroles, j'en peux plus. Alors je lui propose de la raccompagner un bout de chemin. Et alors qu'on marche dans une allée du parc, soudainement elle s'arrête et elle me dit « Tu sais, Marie-Vonne, je sais pourquoi je souffre autant. Quand ça sera l'heure de m'en aller, je partirai avec ma foi. J'emporterai avec moi ma justice, ma vérité et ma conscience. Je partirai avec ma croix. Les anges viendront me chercher. Mais j'ai pas peur de la mort. Je sais que je retrouverai le Seigneur et la Reine du Ciel. Ma vie tout entière n'a été que souffrance. Mais je sais pourquoi je souffre. Quand je serai au ciel, je prierai pour tous ceux qui souffrent comme moi. Moi, je les comprendrai et je saurai comment prier pour eux. C'est pour ça que je souffre, pour me préparer à mon travail du ciel. Bien sûr, j'ai pas noté sur place ces mots, mais rentrée à la maison, je les ai tout de suite écrits alors qu'ils résonnaient encore en moi. Des paroles entendues, gardées précieusement comme un inestimable trésor. Lumière, comme une paillette d'or au fond de la bâtée boueuse de l'orpailleur, comme le voile du temple qui se déchire.
Nous poursuivons avec ces étincelles au creux du malheur. Je donne maintenant la parole à Dominique Quatanea. Dominique enseigne ici au Centre Sèvres en théologie morale.
Merci. Recueillir une parole adressée. Recueillir une parole adressée en cet instant fragile où s'élève dans l'interlocution un long cri de douleur, de misère, de désespoir, engage à une réflexion sur ce qui se joue dans cet instant entre nous. Pourquoi garder trace de cet élan vital sous mode de prose poétique ? Tout dans cette expression violente, parfois agressive ou insoutenable de douleur, peut amener à s'éloigner, à s'évader et in fine à ne rien voir. Passer à côté de la lumière diffuse qui continue de vaciller au creux de cette détresse et de cette impossibilité de relèvement. Marie-Vonne souligne cette tentation. Et elle y fait parade en notant ce qui s'écoute dans la douleur. Écrire pour, au fil des mots attrapés au vol, demeurer présente à ce flux continu de souffrance exprimée, ce torrent de douleur qui risque de tout emporter. Puis relire dans le silence et à distance pour peut-être entendre ce qui n'était pas perceptible ou rester caché. Dans la présence douloureuse, les sens sont si touchés, l'émotion si palpable, que tenir dans l'écoute a trouvé sa double médiation. Un écrit à distance et sa reprise au calme. Se donne ainsi à réentendre pour tous, et d'abord pour Nathalie et sa famille, dans une mise en forme fidèle et créatrice dont vous avez la première page ici, c'est la première page du livret que Marie-Vonne a remis à Nathalie. Dans une mise en forme fidèle, créatrice, en prose poétique, ce qui fut transmis dans un trop-plein de douleur. Une écriture alors à deux voix et quatre mains, situées chacune à leur place, insubstituables, et pourtant liées par cette connivence de la longue fréquentation mutuelle, de l'amitié et de la confiance, parce que c'est toi. Cette visitation entre deux femmes, dans la durée et dans le recueil par écrit, du cri de déréliction quand rien d'autre n'est possible, porte un fruit inattendu, né de la connivence de ce cœur à cœur, de ce corps à corps. L'une crie, l'autre met par écrit. Et ensemble, elles composent une expression unique, poétique et tragique, qui en appelle à un autre, le tout autre, au nom duquel elle se retrouve avec assiduité. Il est là, au milieu d'elle, et il est fidèle, solide, il tient bon. Il exerce une justice que la terre ne reçoit pas. Dans l'absence-présence d'un arrière-pays communautaire, où peut naître un recueil d'écrits d'injustice adressé à ce Dieu qui vient. Soulignons les conditions originaires de ce recueil. Une longue connivence, le temps long de l'apprivoisement mutuel, l'ancrage dans cet arrière-pays de la vie selon la pierre d'angle, tissé du respect infini de chacun où le consentement s'éprouve dans le temps, car il y va de la possibilité même de se laisser saisir sans risque de se perdre pour Nathalie, suffisamment confiante dans la fiabilité de Marie-Vonne. Et pour Marie-Vonne, il y va de la possibilité de tenir dans la durée, dans l'écoute impuissante et fidèle, qui réassure sur la valeur infinie de cette vie éprouvée. Aussi long soit le chemin, restez là, présence souvent impuissante à changer le cours des choses, mais présence réelle. Ces textes, nés de leur connivence, deviennent-ils des psaumes de lamentation, c'est-à-dire une prière commune de résistance poétique et politique à l'effacement. Une voix, la voix du texte, s'élève, née de leurs deux voix et de leurs quatre mains. Une voix collective en son essence, sans Nathalie, pas de chair pour ce cri, sans Marie-Vonne, pas d'oreille pour recueillir, ni de main pour offrir. Une œuvre qui est prière, de supplication, de lamentation, mais aussi louange et déploiement de leur amitié sociale. Qu'est-ce que cela change dans le monde que d'oser cette médiation poétique à deux voix et quatre mains? Ces psaumes, médiation écrite des voix, donnent à entendre pour soi, le criant comme le recueillant, et pour d'autres, les lecteurs, le fruit de leur interdépendance, sa fécondité réelle. Un acte social, au sens de faire société dans l'interlocution, est posé. Il donne accès à un monde commun. Dans le même mouvement d'advenu, un acte politique se déploie, qui met en lumière la vie politique comme vie commune arrachée au silence et à l'oubli. Ce déploiement exige le collectif, quatre mains, deux voix, pour que s'engendrent dans la vie de la cité les signes écrits de cette lamentation. Ce passage est poésie sociale. Passage du cri perdu dans le souffle qui s'épuise au cri recueilli et offert à l'écoute de tous. Laissez résonner cette plainte infinie comme ce torrent d'énergie morale qui naît de la participation des exclus à la construction d'un avenir commun, selon les termes du pape François dans son encyclique Fratelli Tutti au numéro 169, requiert une alliance des voix et des mains, une œuvre qui n'existe que d'être plurielle. Le pape François qualifie de poètes sociaux celles et ceux qui permettent cette advenue toujours fragile. Une entrée subversive dans la catégorie d'auteur, qui renverse nos visions trop étroites, et une entrée tout aussi subversive dans la critique sociale, en prenant à témoin ce Dieu dont Nathalie ne doute pas qu'il écoute et qu'il soutient, jusque dans son silence. Moi, on rejette mes demandes. Pourquoi ? Je ne demande qu'une toute petite place. Mais tu es où, Seigneur ? Manifeste-toi, vois ma souffrance, je pleure, je crie. Cette œuvre de poésie sociale qui témoigne de la dimension dialogique de l'existence, y compris dans les expériences de malheur et de désintégration, pose la question de l'agir social contre l'injustice. Une communauté de solidarité, engendrée de l'écoute, peut-elle naître ? Nous sommes embarqués comme lecteurs dans cette gratuité, ce don qui est la caractéristique même de l'acte poétique. Il n'a rien d'utilitaire, mais suppose une contemplation. Ces psaumes de lamentation donnent à entendre la voix de croyantes qui ne mettent pas sous les yeux une issue merveilleuse à l'injustice, mais qui font résonner un « je crois » que le monde est assumé en Christ. Aucune garantie, aucune place sociale n'est donnée. Nous sommes embarqués comme lecteurs dans cette foi confiance qui se diffuse et fait résonner ce cri sublime, ce devant quoi tout paraît dérisoirement petit. Alors partager la vie de ces poètes sociaux, devenir leurs amis, c'est à la fois changer de point de vue, modifier notre regard, devenir attentif et nous donner l'occasion, peut-être, d'entrer dans une réception politique de l'œuvre. Les plus oubliés, les plus démunis, socialement, ont un talent, une expertise pour manifester les points décisifs de transformation de nos dispositifs sociaux. Ils en sont les victimes, ils en expérimentent les failles et nous les donnent à voir et à entendre. Leur lutte incessante est habitée par cette nuit profonde. Je cite le 12 novembre 2020. « Mon cœur est enflé, j'ai des aiguilles dans la poitrine. Quand je marche vers l'avenue de Flandre, je vois de jolis logements avec de petits balcons. Pourquoi il n'y a rien pour moi ? Je voudrais juste un petit HLM. » Je veux crier ma misère à la face du monde. Comme des orpailleurs, selon la si juste expression choisie par Marivonne, saurons-nous attester de ce qui est là, donné dans cette poésie sociale ? Ces étincelles vacillantes dans la nuit peuvent-elles rallumer le feu de la vie sociale ? Peuvent-elles éclairer nos dispositifs sociaux en quête de justesse ? C'est en ce sens, me semble-t-il, que le pape François invite à recueillir ses œuvres de poètes sociaux. Je cite Fratelli Tutti 169. Il convient de travailler à ce que ces mouvements, ces expériences de solidarité qui grandissent du bas, du sous-sol de la planète, confluent, soient davantage coordonnées, se rencontrent, mais sans trahir leurs caractéristiques, parce que ce sont des semeurs de changement, des promoteurs d'un processus dans lequel convergent des millions de petites et grandes actions liées de façon créative, comme dans une poésie. En ce sens, les poètes sociaux sont ceux qui travaillent, qui proposent, qui promeuvent et qui libèrent à leur manière. Grâce à eux, un développement humain intégral sera possible, qui implique que soit dépassée cette idée de politique sociale conçue comme une politique vers les pauvres, mais jamais avec les pauvres, jamais des pauvres, et encore moins insérés dans un projet réunissant les peuples. La mise en forme poétique, à deux voix et quatre mains que Nathalie et Marivonne ont élaborée de manière artisanale et humble, est une facette de cet amour social et politique qu'appelle de ses voeux le pape François. Il fructifie à la mesure des racines amicales qui lient ces deux femmes, épouse le tact de la poésie, l'humilité de sa voix, qui laisse être notre appartenance profonde au monde de la vie. Le terme de poésie sociale tient à distance une forme d'esthétisme désengagé qui éloignerait de la résistance politique et sociale. Car la puissance de ce recueil qui tour à tour se fait lamentation, supplication et louange est réelle. Puissance d'affecter et de motiver nos libertés. Il épouse la pulsation des psaumes, fait écho à leur mouvement d'orientation, de désorientation et de réorientation et reflète à la fois la conviction que l'existence est reçue de Dieu et que le sens de celle-ci advient par une parole adressée, quand bien même celle-ci se vit sous le mode de la protestation ou de la révolte. Revenir ainsi à la source de ces torrents d'énergie morale, c'est permettre à ces textes, à quatre mains et à deux voix, d'ouvrir un passage de la vie nue à la commune responsabilité pour autrui.
Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à Paul Roussy. Paul est enseignant en littérature à Bordeaux.
Merci. Bonsoir. Je cite un poème de Jean-Pierre Lemaire dans lequel le « toi » serait Nathalie et le « elle » Marie-Yvonne. Toi, tu étais obscure, mais elle... Voyez peut-être l'auréole de flamme autour de l'éclipse, ce qui débordait sans que tu le saches, ton visage éteint, la lumière des pauvres. Un groupe de Place et Paroles des pauvres nous a rappelé un jour au cours de notre séminaire que Joseph Brzezinski faisait partie des gens qui, dans le monde de la misère, savaient lire. Marie-Yvonne, qui a longtemps cheminé avec Brzezinski, aussi bien qu'avec Nathalie, sait lire, elle aussi. Mais comment lire ce qui n'a pas d'abord été écrit? La seule solution, c'est de l'entendre. Prenons l'exemple de l'Évangile. Avant d'être lu, avant d'être écrit, il a été entendu. Jésus a été entendu, et des hommes ont écrit, et l'Évangile est lu afin d'être à nouveau entendu. Toi, Christ, tu étais obscur, mais ils, les apôtres, voyaient peut-être l'auréole de flamme autour de l'éclipse, ce qui débordait sans que tu le saches, ton visage éteint, la lumière des pauvres. Les Évangiles sont d'abord un recueil, une collection, comme l'est aussi le recueil de Nathalie, établi et illustré par Marie-Yvonne, laquelle a mis en espace, à la manière de vers de poèmes ou de versets de psaumes, des paroles entendues d'elle. C'est le rythme, pour ne pas dire le flot, de la parole de Nathalie qui a provoqué chez Marie-Yvonne cette distribution en vers ou en versets sur le papier. On peut ainsi d'abord repérer une signature prophétique. Le témoignage de Jérémie, par exemple, a été recueilli par Baruch. « Apprends-nous donc comment tu as écrit toutes ces paroles, lui demande-t-on. » Et Baruch de répondre « Jérémie me les dictait toutes, et moi, je les écrivais avec de l'encre sur ce livre. » On peut aussi repérer une signature poétique, tout autant que politique, dans le champ de la poésie de la résistance cette fois. L'éditeur et résistant Pierre Segers a fait une œuvre clandestine et risquée de diffusion de voix poétiques dissidentes, parmi lesquelles Aragon et Éluard, au point d'en écrire par la suite une anthologie. Et voici son témoignage. « Je sais que dans ce livre, je suis amené à citer très souvent. En vérité, je cite comme on cite en justice. » Ou encore, disait-il, « Sauvez l'homme de l'humiliation, sauvez l'homme de l'humiliation, de l'avilissement et de l'écrasement, devint action, réaction spontanée, écriture. » Le salut se fait donc écriture. La citation, une citation en justice. Suivant cette logique, la parution d'un recueil serait comparution, et comparution immédiate. On trouve en effet dans le recueil de Nathalie, comme on l'a entendu dans le commentaire de Dominique, un très fort désir de justice. Et c'est ce désir de justice qui fait la poésie de son recueil, et qui commande tous les traits esthétiques de son expression. La poésie n'est pas décorative, elle devient belle quand elle crie la justice. Selon la définition de Segers, poète est celui-là qui n'écrit pas forcément. Pour Segers, poète est celui-là qui peut peindre aussi un chemin de croix. Poète est celui-là qui refuse l'avilissement, l'écrasement, l'humiliation. Jésus, qui renverse les tables ou qui met à jour la méchanceté des gardiens du temple, leur lâcheté de serpent, leur cruauté de bête, Jésus est poète. La poésie des psaumes naît également de ces refus, de ces protestations violentes. La louange est à ce prix. On pourrait d'ailleurs parler, avec le poète Henri Beauchaud, de tentative de louange. En somme, ce désir de justice est le tronc de l'arbre du recueil poétique de Nathalie, autour duquel se développent plusieurs branches. Je choisirai seulement trois branches, en forme de croix, et je terminerai par le tronc. Première branche, l'amour de la nature. Je cite Nathalie, « Le mal qu'on me fait, je ne le rends pas. Même les fourmis, je les respecte. » Par une analogie inattendue, le mal que Nathalie est incapable de rendre aux personnes qui l'ont fait souffrir est justifié par son incapacité à maltraiter les petites bêtes de la nature. Le fait de citer les fourmis à un endroit si douloureux pour elle raconte la solidarité de Nathalie avec le vivant, raconte son écologie, mais aussi son humilité. À la manière de saint François, l'amour de la nature est choisi pour dire la nature de l'amour. Deuxième branche, l'effacement de soi. Je cite à nouveau Nathalie. Je ne prie pas en priorité pour moi, non. J'oublie de prier pour moi ou pour mon logement. Je prie pour le monde. Je prie pour la France, pour les animaux. Je prie pour le pape et pour tous ceux qui ont besoin d'aide. Après l'analogie, nous entendons ici une anaphore. Je prie pour. Comme le dit Paul Beauchamp, c'est la petite monnaie de la poésie, celle d'unité rythmique de la piété populaire qui viennent résonner en musique. Je ne prie pas pour moi, je prie pour. Je ne prie pas pour moi, je prie pour. Le rythme de l'ouverture du cœur est lancé. L'intention est autant nationale qu'animale, puis ecclésiale. Pour le peuple. La prière se fait authentiquement universelle. Après avoir été centrée sur soi, elle s'est naturellement décentrée. Troisième branche, la louange de grâce ou l'émerveillement. Ici, c'est un poème entier que je cite de Nathalie. Assez bref tout de même. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui je voudrais te remercier pour toutes les grâces, et pour le grand miracle de la vie, pour mes enfants et pour mon petit-fils. Chaque soir, je te remercie quand je suis sous ma couverture. Je te remercie pour tous ceux qui ont à cœur de travailler pour le respect et pour l'humanité. Préserve-nous de la corruption et garde en nous un cœur pur. Seigneur, tu vois tout dans le silence. Tu me prends par la main pour me conduire sur le bon chemin. Je te remercie de me donner d'accepter ce que je suis. Toi, tu connais ma faiblesse, ma foi et mon courage. Je te remercie pour tous ceux qui sont près de moi. Étends sur nous ton grand manteau d'amour. Ici, le poème se déroule en prière et la prière en psaume. On reconnaît d'ailleurs des emprunts scripturaires, le bon pasteur qui conduit sur le bon chemin. Emprunts scripturaires qui nous font partager une hypothèse de Jean-Pierre Lemaire. Je le cite, « Quand le poète a eu spontanément recours au langage évangélique ou biblique pour rendre compte de ce qu'il a vécu, c'est la parole de Dieu elle-même qui s'entend à travers la sienne. » Dans le poème de Nathalie, c'est un grand manteau d'amour qui non seulement s'entend, mais s'étend, comme la couverture. La couverture sous laquelle elle se trouve dans son lit, au deuxième vers, devient en effet au tout dernier vers un grand manteau d'amour à l'échelle du cosmos. Nathalie ne sait peut-être pas ce qu'est une métaphore, mais elle sait en faire. Sa simple couverture est bel et bien la métaphore de l'amour enveloppant de Dieu. Analogie de l'écologie, anaphore du monde, métaphore de l'amour, tel est donc le triptyque que nous venons de mettre en lumière dans le recueil de Nathalie transmis par Marie-Yvonne. Trois branches d'une croix dont le tronc principal, la racine, je le disais tout à l'heure, et la soif de justice. Je cite Nathalie, « Mon Seigneur, Maître de toutes choses, j'ai soif de ta justice divine. » Ou encore, « Ta justice vient du ciel. Tu m'as toujours envoyé un secours face à ceux qui voulaient m'écraser ou m'enlever de la société. » Nathalie souffre notamment de n'avoir jamais pu accéder, on l'a entendu aussi, à un logement social. « Pourquoi il n'y a rien pour moi? Je voudrais juste un petit HLM. » D'où ce désir très fort de justice sociale. Je la cite, « On ne doit pas bloquer les pauvres dans leurs demandes. » On ne doit pas bloquer les pauvres dans leurs demandes. On peut se demander quel évêque oserait prendre cette parole comme devise épiscopale. On ne doit pas bloquer les pauvres dans leurs demandes. Moi, on rejette mes demandes. Pourquoi ? Je ne demande qu'une toute petite place. « Mais tu es où, Seigneur ? Manifeste-toi. » Et un peu plus loin, « Mais j'ai la certitude que je ne suis pas seul, le Seigneur est avec moi. » Nous arrivons ici au cœur et au terme également de notre lecture. Comme dans les psaumes, la soif de justice, aussi marquée par la colère et la douleur soit-elle, fait jaillir une imprévisible profession de foi. Une pareille attestation au milieu de tant de ténèbres et de souffrances rejoint l'expérience de Job, celle-là même que Nathalie relie avec force dans sa dernière participation au groupe d'échange de la pierre d'angle. Là, je cite Nathalie, mais dans le contexte donc de ce groupe de partage sur la Bible. « Malgré tout ça, dit-elle, il est resté fidèle, Job. » Ou encore, tout le mal vient de Satan et de l'homme cruel, la jalousie, la méchanceté, mais il a résisté. Résister, tel est bien le maître mot de Nathalie, qui revient également dans ses propres poèmes. Dans ses poèmes, cette fois-ci, on entend Nathalie, « Il voit que c'est la foi qui me fait résister. » Ou encore, « Le Seigneur, je le prie à ma manière, gloire à Dieu et paix aux hommes sur la terre. » Et cela me fait résister. Trois occurrences du verbe résister, et si je vous donne la chronologie d'un texte à l'autre et d'un groupe à ce recueil, on trouve 2019, octobre 2019, novembre 2020, avril 2021. Résister, 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 à travers la figure de Job et sa propre expérience. Dans l'une de ses méditations, le poète Philippe Jacotet cite avec admiration la philosophe et résistante Simone Veil à propos de la figure de Job. Voici ce que disait Simone Veil. « Si l'orientation de l'âme est l'amour, plus on contemple la nécessité, plus on serre contre soi, à même la chair, la dureté et le froid métallique, plus on s'approche de la beauté du monde. » C'est ce qu'éprouve Job. Je rappelle à cet endroit le témoignage partagé par Marie-Vonne ce soir, laquelle passe de l'enchaînement des plantes à l'enchantement d'un poème. Je cite à nouveau Marie-Vonne, « Que faire, que dire, qui être devant un tel flot de mots, de paroles, de souffrances et d'injustices ?» Et cependant, après coup, relisant ces mots griffonnés à la va-vite sur le papier pour les taper sur l'ordinateur, combien de fois n'ai-je pas été stupéfaite par la puissance et la beauté de ces textes ? Je souhaite terminer par cette figure de la beauté cachée qui se révèle après coup, comme le dit Marie-Vonne. C'est l'expérience du centurion devant la croix du Christ, du peuple devant le serviteur souffrant, de l'entourage de Job résistant, de toutes ces personnes dites maudites et qui étaient pourtant bénies par Dieu. Un flot chaotique de mots chez Nathalie, Paul Beauchamp rappelle que Job lui-même présente aux hommes un visage nouveau de la sagesse. Paul Beauchamp parle de Job comme d'un homme aux yeux hagards, haussant la voix pour tenir des propos décousus. Et pourtant, poursuit Paul Beauchamp, les propos de Job surprennent, mais c'est dans tout le livre que le style est flamboyant. Au lieu d'ouvrir les yeux, poursuit Jean-Pierre Lemaire, sur la nouveauté du monde que les poèmes peuvent nous révéler, ceux qui ne lisent pas les poètes préfèrent les traiter de rêveurs. Alors sur les poètes considérés comme rêveurs, il y a une anecdote qui concerne Paul Éluard, poète de la Résistance, qui était passé par la censure du régime de Vichy, et le censeur, à la fin d'un repas, a vu ce poème de Paul Éluard, J'écris ton nom, liberté, j'écris ton nom, j'écris ton nom, j'écris ton nom. Le censeur a dit, ah, encore un poème d'amour, et il a tamponné pour donner son accord. Sauf que ce poème est devenu, avec le chant des partisans, le plus grand poème de la Résistance, à tel point qu'il a été parachuté par les Anglais avec les armes que donnaient les Alliés à la Résistance intérieure française, et que Paul Éluard a dû par la suite se cacher pour cette raison. Donc vous voyez, derrière les rêveurs, il y a beaucoup de réalité. Jean-Pierre Lemaire dit aussi que parmi les auditeurs de Jésus témoins de ce miracle, certaines personnes préfèrent garder leurs habitudes de pensée plutôt que de croire à ce qu'ils voient ou entendent. Pourquoi est-ce si difficile ? Pourquoi cette résistance à la résistance ? Le langage poétique de Jésus, tel qu'il est souligné par l'exégète Pagola dans sa lecture des paraboles du royaume et de la miséricorde, révèle une image de Dieu qui apparaît comme insupportable. Jésus est celui que des prêtres ont fait supprimer parce qu'il leur parlait d'un Dieu dont ils ne supportaient pas la révélation. On n'attendait pas de voir Dieu là où il se montrait si bas, comme nous l'a dit tout à l'heure François. À propos de la privation de liberté et de l'exécution sous forme de crucifixion de Jésus, les premiers à s'en être lavé les mains, ce ne sont pas Pilate et l'administration romaine, ce sont des prêtres. Ceux qui ne voulaient pas se salir les mains ont confié aux moyens coercitifs et répressifs de l'État la charge de faire taire Jésus, parce qu'ils ne voulaient pas le faire eux-mêmes. Paul Beauchamp résume très bien la situation en disant « Ceux à qui le prophète annonce leur fin veulent la fin du prophète ». Dans son propos d'introduction, Laure nous le disait en ce début d'après-midi, l'Église s'est édifiée à partir de celui qui a été jugé indigne de Dieu et des hommes, Christ. Et aujourd'hui, nous le voyons bien, l'hostilité que rencontre le défenseur des poètes sociaux dont nous a parlé Dominique, l'hostilité que rencontre le pape François dans ses efforts de réforme pour l'Église. Alors, je ne saurais terminer qu'en faisant avec Robert Scholtus des vœux pour danser en plein séisme, comme est le titre de son dernier essai, pour que la poésie puisse continuer de menacer de son hérésie le discours dogmatique et d'offenser de sa différence les simulacres de la langue religieuse. La poésie, poursuit-il, quand elle se tient au bord du mystère, comme Marie-Yvonne a osé se tenir, tout près de Nathalie, et réciproquement. Quand la poésie se tient au bord du mystère, elle accorde le croyant à la discrétion de Dieu, dont le souffle imperceptiblement effleure la mèche qui fume encore et ranime tant de versets desséchés par l'habitude. Je vous remercie.
Je vous lis un dernier texte de Nathalie. Nous sommes en confinement en novembre 2020. Le texte est écrit suite au vol de son portefeuille. Je n'en peux plus. J'ai des brûlures dans le sang. J'ai besoin de me laver la cervelle. Je suis épuisée. Je n'en peux plus. Il y a trop de méchanceté et trop d'injustice. Il y a des gens que je peux pardonner. Il y a d'autres gens. Non, je ne peux pas. Moi, je ne dis jamais du mal des autres. Mon cœur est enflé. J'ai des aiguilles dans la poitrine. Quand je marche vers l'avenue de Flandre, je vois des jolis logements avec de petits balcons. Pourquoi il n'y a rien pour moi? Je voudrais juste un petit HLM. Je vais crier ma misère à la face du monde. Je prie beaucoup. Je prie la reine des anges. Il faut prier Saint-Michel. Marie-Yvonne, prie Saint-Michel. Quand je prie, je suis bien. Le ciel s'ouvre au-dessus de ma tête. Je vois la lumière du ciel. Je ne prie pas en priorité pour moi. Non. J'oublie de prier pour moi ou pour mon logement. Je prie pour le monde. Je prie pour la France. Pour les animaux. Je prie pour le pape et pour tous ceux qui ont besoin d'aide. Le Seigneur connaît le droit du cœur de chacun.
Merci à toutes nos lectrices pour avoir prêté leur voix à Nathalie. Ce que nous vous proposons maintenant, c'est de ne pas vous laisser partir sans que vous ayez pu poser des questions, si il y en a, ou comme tout à l'heure, si ce ne sont pas des questions, eh bien partagez une perception, une réaction, voilà, quelque chose que vous voudriez apporter à la réception commune de cette soirée. Peut-être que ceux qui sont en ligne avec nous peuvent aussi noter sur les commentaires, les questions ou les points qu'ils voudraient partager pour cette soirée. Merci. C'est Mathieu qui va, si jamais les questions arrivent par le chat, on va nous les partager.
Bonjour, merci infiniment. Je fais partie de ce séminaire, donc je connaissais quelques, disons, poèmes de Nathalie. Je dis que je faisais partie du séminaire, donc j'ai déjà entendu certains des poèmes, je les appelle comme des poèmes, des prières, des psaumes. Je trouve qu'il est très difficile, c'était le début de mon intervention, d'avoir une réaction tellement ce témoignage est fort, témoignage, enfin cette vie mise à nu, et j'entends, Marie-Yvonne, que tu as pu rester parce que tu as pris par écrit, je ne sais pas comment tu faisais d'ailleurs, sur des bouts de papier à côté d'elle, bon, revenant chez toi. Dominique et Paul, vous avez eu une réaction l'une plus, je dirais, politique, sociale. Je voudrais juste être sûre d'avoir bien compris, parce que je trouve que c'est difficile hein, d'avoir un recul tout de suite. Et je dirais Paul plus littéraire, pour aller vers la théologie. Alors, voilà, quoi. Bon, je voulais être bien sûre du... Parce que moi, je trouve que c'est tellement beau qu'on se disait avec ma voisine, on prend vos textes, on les édite demain.
Pardon, mais les questions peuvent aussi être adressées à Jean-Claude. Et bien sûr, à François. Donc en fait, nous sommes là tous les trois pour ne pas faire trop de déplacements, mais bien évidemment, vos questions peuvent inclure, évidemment, les présentations précédentes.
Je viens d'arriver en France, donc je suis pauvre dans mon français. Ma question, deux choses, commentaires. Je suis très impressionné par tout ce séminaire, point 1, point 2. Je me demandais, c'est pour mon voisin, par hasard on s'assoit à côté. Donc dans la réflexion théologique, il y avait l'incarnation, la Pâque. Je me demandais simplement, est-ce qu'il faudrait inclure aussi la Pentecôte? Voilà, question simple, c'est mon hobby, l'Esprit Saint.
Ah, oui. Merci beaucoup. Alors, il se trouve que dans les textes qui étaient donnés, les commentaires, il n'y avait pas spécialement un commentaire sur la Pentecôte. Je dirais quand même que un des lieux importants par lesquels la voix de l'Esprit Saint, si jamais il y a une voix de l'Esprit Saint, où les voix que l'Esprit fait travailler se font entendre, c'est dans la prière et la conversation. Et finalement, pour moi, la théodicée, en tout cas, ce long dialogue de l'humanité avec Dieu et de Dieu avec l'humanité, et principalement de Dieu avec les plus pauvres, bah, je dirais, si l'Esprit Saint, l'Esprit de Pentecôte n'est pas là, bon, c'est pas la peine d'y croire. Donc, il n'y a pas l'événement de Pentecôte, mais je pense que vraiment, on peut entendre ce dialogue de cette manière-là, oui, comme le passage de l'Esprit.
Moi, j'aime bien les évidences. Merci pour la mention que si Dieu n'avait rien à apprendre de nous ou des plus pauvres, il ne serait pas en vrai dialogue. Ça me parle. Merci, François.
Donc, moi aussi, j'appartiens au séminaire, donc j'avais bien sûr entendu pas mal de choses. Mais je suis très admirative de ce que vous avez fait en trio, Marie-Vonne, Dominique et Paul. J'avais une question, je n'ai pas bien entendu la référence de la dernière citation que tu as faite, Paul. Et puis, j'avais une question plus globale. Comment avez-vous pensé à traiter la question à travers la mention des poètes sociaux? J'ai lu Fratelli Tutti, mais je n'ai absolument pas repéré la mention des poètes sociaux. Je relirai le numéro 169. Comment est-ce que c'est venu cette idée de tricoter tout ça autour de la notion des poètes sociaux?
Je commence par la source, juste. Et Pour la source de la citation, il s'agit donc de Robert Scholtus et son essai, c'est « Danser en plein séisme » ou « L'énergie de la foi ». Voilà. Et il a un chapitre en effet qui s'appelle « De l'hérésie poétique », mais il entend « hérésie » au sens où on l'a un peu entendu avec Sylvie qui citait Anne-Marie Pelletier, de lecture iconoclaste qui permet de réveiller un peu le langage de la foi. Voilà. C'est un prêtre du diocèse de Metz, qui est à Metz en tout cas. Voilà.
Et Robert Scholtus a été pendant longtemps à l'ICP responsable du séminaire des Carmes. Alors en fait, la question des poètes sociaux, c'est en travaillant, Grégoire Cata est là, mais l'année dernière, on a été tout un groupe qui a travaillé sur le commentaire pour le Séras de Fratelli Tutti, et Geneviève aussi était dans l'équipe, et en lisant de façon plus attentive Fratelli Tutti, j'ai été frappée par cette expression qui, d'une certaine manière, fait écho à ce que le pape travaille avec ses quatre rêves dans Querida Amazonia. Donc il y a quelque chose chez François, pas quelque chose, mais il y a chez François le passage par la poésie. Dans Querida Amazonia, vous vous souvenez, il y a énormément de citations de poèmes. Et dans le commentaire aussi pour la version commentée de ce texte au Séras, il y a tout un travail de Jean-Pierre Sonnet, qui est bibliste, qui travaille sur la poésie biblique et qui souligne à quel point notre pape n'hésite pas à passer par le langage poétique, parce que la force d'évocation du poème permet de faire travailler l'imagination. On pourrait dire l'imagination qui transforme notre manière d'être au monde, de sorte qu'elle élargit le spectre de ce qu'on peut inventer, alors qu'on est dans une... Il semble qu'on soit dans une impasse écologique, d'un Querida Amazonia. Et au fond, rêver, c'est pas s'évader du monde, mais c'est le réengager avec des sources d'énergie beaucoup plus fécondes, parce qu'il y a une puissance de l'évocation poétique qui est assez forte. Donc voilà, c'était parce que travaillant avec d'autres sur le commentaire de Fratelli Tutti, j'avais repéré cette veine poétique. Et puis parce que vous savez que le pape travaille aussi beaucoup avec les acteurs des missions populaires et que sa manière à lui de soutenir ce travail, c'est de les qualifier de poètes sociaux. Voilà, le travail, c'est de transformation du monde, en fait, de libération de ces énergies créatrices, que ce soit pour inventer une autre manière d'habiter la Terre, que ce soit pour inventer une autre manière de se relier les uns avec les autres, eh bien, ça passe par l'art poétique.
Merci beaucoup pour toutes les interventions, toutes les paroles entendues. Je voulais revenir sur l'intervention de François. J'étais très frappé à un moment, si j'ai bien entendu, je crois que c'était Colette qui s'exprimait ainsi, si je ne me trompe pas, il disait, c'était à propos de la souffrance, du mystère pascal, quand il disait Jésus a été abandonné par Dieu, mais on peut dire aussi d'un autre côté, Dieu ne l'a pas abandonné. J'ai quand même trouvé ça très très frappant, parce qu'il y a quand même des voix dans le christianisme, dans la théologie, hein, qui ont beaucoup insisté au XVIe siècle, puis de nouveau dans ces dernières décennies, sur le fait que Jésus a été vraiment abandonné. Or là, on a entendu un peu autre chose. Il a été abandonné, et en même temps, Dieu n'a pas abandonné. Je ne sais pas si là-dessus, il y a quelque chose à préciser, parce que je trouve ça très, très intéressant.
C'est Chantal qui a dit cette parole, et ce qui me frappe, c'est l'écho avec ce qu'elle peut vivre, me semble-t-il. D'autres ici la connaissent et rectifieront si je dis quelque chose qui n'est pas juste, mais il y a, comment dire, elle dit souvent combien elle se sent abandonnée. Parce que tout est difficile, parce que certaines des difficultés évoquées par Nathalie, Chantal, elle les connaît aussi, etc. Et en même temps, par moment, elle dit Dieu est là, c'est grâce à lui que je suis encore vivante, si j'avais pas la foi, de toute façon, je serais morte depuis longtemps, voilà. Ce qui me frappe, c'est que cette lecture qui pousse au bout le paradoxe d'être abandonné, mais que Dieu ne peut pas nous abandonner, donc il ne nous abandonne pas, articule à la fois beaucoup de lucidité. Franchement, quand on regarde la vie des plus pauvres, il se pourrait bien que Dieu les ait abandonnés, et un regard de foi poussé jusqu'au bout, il n'est pas possible que Dieu les ait abandonnés, et de fait, sans la foi, ils seraient morts. Voilà, ce paradoxe se laisse pousser loin.
Voilà, on a quelque chose de les personnes qui sont à distance. La première, c'est je souhaite juste vous dire merci pour cette soirée. C'était vraiment enrichissant et bouleversant à bien des égards. Après, Annick a dit merci pour le ton des prises des paroles de ce soir. Il s'en dégage une douceur et une humilité rare chez les sachants, en guillemets. Attitude sans doute apprise au contact des plus pauvres. Après, il y a une question. Quand Dieu, ça je pense c'est peut-être pour François, mais quand Dieu aurait-il fini d'apprendre, il pourra supprimer l'injustice. Après, on vient de recevoir une dernière. La force de la parole devient créatrice et transforme la mémoire des pauvres et nous rend, nous qui l'écoutons, vivants avec eux et vivants par eux, dans l'espérance.
Oui, on peut espérer que, en effet, il y ait une fin à l'apprentissage de Dieu, non pas au sens où il y aurait une fin à l'engagement de Dieu dans une relation avec l'humanité qui passe constitutivement par les plus pauvres. Là, on peut espérer qu'il y a un choix de Dieu qui demeure pour l'éternité, un choix qui passe dans l'histoire par des moments très concrets, mais qui vaut pour toujours. Mais on peut espérer que l'apprentissage arrivera à son accomplissement. Et en effet, les promesses prophétiques d'abord et apocalyptiques dans le Nouveau Testament ensuite, de ce que il y aura un jour où le malheur sera effacé de la face de la terre, ben on peut dire que ce sera le jour où Dieu sera, où l'apprentissage de Dieu sera accompli, peut-être.
Oui, enfin, pardon, je vais peut-être un peu être décalée, mais moi, c'est quelque chose qui me révolte complètement, quoi, de pouvoir dire en une phrase comme ça toute cette souffrance, toute cette injustice pour l'apprentissage de Dieu. C'est quelque chose que, enfin, je trouve qu'il faudrait beaucoup de délicatesse, d'humilité. Et puis on est qu'au début, quoi. Il y a peut-être une intuition de quelque chose, mais faire un tel raccourci, je trouve ça choquant.
Peut-être je peux juste dire que je ne crois pas que toute cette souffrance soit pour l'apprentissage de Dieu. Il me semble que c'est l'expression qu'il a utilisée. Et si j'ai laissé penser ça, alors vraiment j'en suis désolé. En fait, j'ai essayé de dire le contraire. Il y a tant de souffrance, ou il y a trop de misère, comme dit Josiane. Et donc face à ça, ben même Dieu doit apprendre. C'est ça que je veux dire. C'est pas tant mieux qu'il y ait de la souffrance pour que Dieu progresse. C'est vraiment pas ça. C'est la misère est une réalité si solide dans l'histoire, si avérée, si réelle, que Dieu apprend. Voilà.
Donc Talita dit. Et Dieu, il apprend aussi de la joie. Ça lui a jailli là. Merci beaucoup, beaucoup à tous nos intervenants. Merci, merci. Au terme de la soirée, vous êtes invités à prendre du temps pour ceux qui en ont un peu, pour contempler le chemin de croix du Sapel qui est là exposé. Et puis, si vous voulez faire quelques achats à la librairie, une petite page de publicité. Alors, les derniers seront les premiers. C'était la journée d'études sur la synodalité du mois de janvier. Qu'est-ce qui fait vivre encore quand tout s'écroule ? C'était le livre du premier séminaire de recherche, il y a quelques années, je ne sais plus quand, mais... La thèse de Frédéric Marie, qui parlera demain après-midi, vient d'être publiée, « Révéler aux tout-petits une théologie à l'école des plus pauvres ». Et puis, sœur Marie des Anges... qui est, je ne sais pas où, là, pardon, excuse-moi, sa Marie des Anges, a soutenu sa thèse au mois de juin et elle a réfléchi sur les femmes victimes de violences au Nord-Kivu dans sa thèse et elle a rencontré, ça a été une rencontre importante pour elle, elle nous en parlera demain, le docteur
Lenny Mukwege.
Voilà, c'est beaucoup mieux prononcé que si c'était moi qui le faisais. Et donc, voilà le livre écrit par ce médecin et théologien. Voilà, quelques livres et bien d'autres au stand de librairie au fond. Très bonne soirée à tous. Et nous nous retrouvons demain matin.
ça commencera à parler à 9h30, donc peut-être qu'à 9h15 être par là, c'est formidable. À demain matin.